Géopolitique.
Chantal Loureau.
Bonjour, bienvenue dans Géopolitique. Il a toujours l'allure d'un éternel adolescent un peu mal à l'aise dans ses baskets et pourtant, Mark Zuckerberg est aujourd'hui à 35 ans, la 8e fortune mondiale, à la tête d'un empire, Facebook, 2,5 milliards d'utilisateurs mensuels et ses petites sœurs WhatsApp, Instagram et Messenger. Chiffre d'affaires en 2018, 55 milliards de dollars. Une pieuvre aux tentacules qui ne cesse de s'étendre, un monstre impossible à contrôler mais qui lui contrôle nos données personnelles, un risque pour la démocratie, voilà ce qu'affirment ses détracteurs. Il faut dire que la confiance en Facebook en a pris un coup en 2018 avec le scandale Cambridge Analytica, coup d'envoi d'une longue série de révélations sur les failles de sécurité du réseau social, les fuites de données, les campagnes de désinformation ou de dénigrement, la diffusion de contenus haineux. Alors les mea culpa laborieux de Mark Zuckerberg ont-ils réellement convaincu? Que vise le jeune patron en annonçant le lancement en 2020 d'une nouvelle monnaie virtuelle, la Libra? Est-ce une menace pour la souveraineté des États? Faut-il démanteler Facebook, comme le préconisent certains? Mark Zuckerberg veut-il devenir le maître du monde? On en débat avec nos invités. Gilles Babinet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes entrepreneur, vice-président du Conseil national du numérique et conseiller de l'Institut Montaigne pour les questions numériques. Jean-Hervé Lorenzi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président du Cercle des économistes. Gilles Babinet, la première question est pour vous. Est-ce que la création prochaine de la Libra reflète l'ambition ou la mégalomanie de Mark Zuckerberg ?
En fait, la mégalomanie dans la vallée, ça n'existe pas. Il faut être extrêmement ambitieux et ça devient une forme de mégalomanie non pathologique d'une certaine façon. Mais ça reflète effectivement une ambition sans limite. Et puis au-delà de ça, je pense, la prise en compte du fait que s'ils n'arrivent pas à intégrer les transactions, ils seront un jour mis en danger par d'autres plateformes. La première d'entre elles étant WeChat, une plateforme d'origine chinoise.
Donc ils sont obligés d'aller toujours plus loin dans l'innovation et toujours plus loin dans la conquête.
Oui, ils observent le succès de WeChat. Ils voient bien que après l'interaction, il faut réussir à faire des transactions. C'est le futur naturel de ces plateformes.
Jean-Hervé Lorenzi, la création en principe au premier semestre 2020 de la Libra a suscité beaucoup de réactions, souvent très réservées. Pourtant, il existe déjà des crypto-monnaies comme le Bitcoin par exemple. En quoi la Libra sera-t-elle différente ?
Alors j'ai un point de vue assez différent, c'est ça qui est intéressant dans cette affaire de Gilles. Pour une raison très simple, c'est que pour un économiste, la monnaie, c'est un statut très très particulier. C'est l'instrument de la puissance, de la souveraineté, l'instrument de la régulation des sociétés, et en réalité, un des soubassements majeurs du pouvoir des États, qu'à voir, hein. Si Monsieur Trump, par exemple, peut avoir une politique assez très offensive en matière économique, c'est tout simplement parce que le dollar a un statut très particulier dans l'histoire du monde. Donc, si vous voulez traiter la monnaie comme si c'était juste un objet d'extension technique ou de conflit ou de concurrence, pour moi, économiste, mais j'ai un biais, il a raison, sûrement, de son point de vue, et moi j'ai raison du mien, c'est évidemment non seulement de la mégalomanie, c'est le signe de leur folie, ils sont fous alliés, tous ces gens-là, c'est-à-dire ce besoin en réalité à un moment d'être, comme vous l'avez posé dans l'interrogation de départ, être maître du monde. Tout le monde a envie d'être maître du monde, donc c'est pas Zuckerberg, mais simplement lui, il va un peu plus loin, il en a la possibilité. N'oubliez jamais que la monnaie, au début, c'est une transaction, donc c'est un instrument de transaction. Ça, c'est la version technique, c'est la version. Et puis derrière, c'est un instrument de réserve, c'est-à-dire que vous le gardez chez vous. Et puis c'est un instrument de la régulation économique des collectivités, en général des pays ou des groupes de pays. La zone euro, c'est la régulation, ça joue sur l'économie de la zone euro. Et il est clair que c'est très très compliqué de séparer ces trois fonctions. Alors au début, on vous dit, on fait de blockchain, c'est le truc de
Bitcoin. Oui, parce que Mark Zuckerberg se défend de vouloir faire de Facebook une banque parallèle.
Vous connaissez-vous, juste un mot, et puis je me tais, mais sur ce sujet-là, mais vous connaissez-vous un mégalomane impérialiste qui n'explique pas de manière rationnelle et modeste son ambition. Je prendrai pas d'exemple horrible de guerre, mais enfin, j'en ai tous en tête. Donc, je veux dire, arrêtons d'être naïfs là-dessus. C'est ce qu'il raconte n'est que la traduction de son une ambition impérialiste sans limite, et qui d'ailleurs trouvera ses limites comme toute forme d'impérialisme.
Gilles Babinet.
Alors, Jean-Hervé n'a sans doute pas lu mes déclarations à cet égard. J'étais extrêmement critique à l'égard de l'émergence de la Libra dans les Échos, Libération, Le Monde, etc. Et moi, je lis effectivement un projet politique extrêmement fort, notamment influencé par Peter Thiel, qui est au conseil d'administration.
Et qui était le créateur de PayPal.
De PayPal, et qui est un associé, libertarien.
Et qui est associé, donc il fait partie des entreprises associées à la création de cette monnaie virtuelle.
Oui, mais qui a vraiment une vocation politique. C'est-à-dire qu'il a toujours expliqué qu'il voulait détruire les États. Depuis au moins 20 ans, il explique que les États, c'est le mal absolu, et donc je pense qu'il a poussé l'ensemble du Conseil à lancer cette monnaie qui n'en est pas une pour l'instant. Effectivement, c'est un système de paiement.
Oui, il faut rappeler quand même que c'est l'idée de Facebook, c'est de pouvoir d'un simple clic transférer de l'argent à l'étranger quasiment sans frais, envoyer de l'argent à ses amis pareil en un clic.
Et quand vous lisez le white paper, il est tout à fait explicite. Le livre blanc, que la vocation c'est de faire un système de paiement. Mais Jean-Hervé le sait beaucoup mieux que moi. Quand vous avez la maîtrise du système de paiement, commencer à faire du crédit, des produits un peu sophistiqués financiers, ça revient à émettre finalement monnaie, à battre monnaie, et c'est là où
vous donc avez ça, ce sera la ligne rouge,
mais qui franchiront immédiatement. C'est tellement facile à franchir que vous n'allez pas vous dire j'ai 2 milliards de personnes qui utilisent mon système de paiement et je peux faire des produits extraordinairement sophistiqués, notamment parce que je détiens la data, la donnée. Vous allez le faire. Ça n'a aucun sens de ne pas le faire.
Mais Mark Zuckerberg présente cette monnaie virtuelle comme un outil d'émancipation des pays émergents. Il rappelle 1,7 milliard personnes n'ont pas de compte bancaire.
Et il a raison.
Alors,
il a raison.
Et je pense que vous ne croyez pas sa philanthropie.
Non, c'est pas ça. C'est que il faut peser le pour et le contre. Le pour, c'est évidemment d'amener des systèmes de paiement qui auront une très très grande efficacité à des populations qui n'accèdent pas à ces systèmes-là. Et je veux dire, très conscient de cette possibilité. Le contre, c'est un dévoiement absolu des États-nations tels qu'on les connaît aujourd'hui, à brève échéance. Parce que, le Conseil constitutionnel français le dit, l'un des éléments de la souveraineté, Jean-Hervé vient de le rappeler,
c'est
de frapper monnaie.
Donc, qui a le plus de soucis à se faire? Est-ce que ce sont les gouvernements, les banques centrales, les sociétés de transfert de fonds, Jean-Hervé Lorenzi?
Mais c'est nous! D'abord, je reprends un instant, je lis très soigneusement ce que dit Gilles. J'ai voulu juste dire que il avait un point de vue lui connaît en réalité beaucoup mieux que moi ce monde-là. Donc il l'a traduit dans des termes qui étaient des termes, j'allais dire, beaucoup plus proches du business de cet univers. Et moi, j'ai traduit comme un économiste. C'était ça la différence. Mais c'est nous qui avons ce souci. C'est RFI, c'est tout vous, c'est moi. C'est un monde dans lequel, à un moment, si on ne réagit pas, me semble-t-il, on aura, j'allais dire, une atteinte au fond, au souhait que nous avons de faire fonctionner des États-nations qui peuvent évoluer d'ailleurs, puisque la preuve, c'est qu'on essaie de bâtir quelque chose en Europe, mais nous souhaitons choisir notre avenir et notre organisation sociale, collective, comme nous le souhaitons, et c'est pas Mark Zuckerberg, mais en fait, vous parlez beaucoup de lui, mais enfin, ils sont tous aussi givrés les uns que les autres, qui doit décider pour nous. Je suis un peu plus âgé que vous, je veux dire, je n'ai pas envie de terminer cette vie avec des gens qui décident pour moi ce que doit être l'évolution du monde, c'est tout. C'est très grave, cette opération. Donc, elle est techniquement, vous allez dire, il y a une ligne rouge, et ceci, et cela, et truc, et on va l'expliquer. La réalité, c'est que, comme toute forme de volonté de domination des individus, qui n'est pas, c'est pas la première fois dans l'histoire de l'humanité, hein, sur les autres, nous voyons que ça prend une forme technologique, alors avec des mots qui sont des mots technologiques et des expressions qui sont des expressions technologiques, mais qui n'en sont tout aussi dangereuses qu'on peut l'imaginer. C'est en ça que nous sommes tous concernés. Alors, est-ce que les États-nations vont se faire avoir? Non. C'est là où je crois qu'il y a une limite à toutes les formes de volonté de domination. Il y a un moment où les États-nations, et je pense que ce sera les États-Unis d'Amérique, qui, quoi qu'on dise, n'aiment pas ça, n'ont jamais aimé ça, vont à un moment réagir. C'est pour ça qu'on va parler tout à l'heure démantèlement. Il y aura démantèlement, évidemment, mais ça n'en résout pas tout le problème.
Vous écoutez Géopolitique.
Gilles Babinet, on a vu depuis 2 ans les failles de sécurité de Facebook. Est-ce que les gens auront suffisamment confiance dans le réseau social pour lui confier une partie de leur argent?
Si vous voulez, si les gens rationnellement mesuraient les risques qu'ils encourent, ils ne feraient pas ce qu'ils font. J'ai un bon souvenir de Barack Obama qui était dans une classe d'école et on lui disait comment devenir président des États-Unis. Et il a répondu, commencez par ne pas poster de bêtises sur Facebook. Et il avait raison parce que je crois qu'aujourd'hui il y a une meilleure compréhension de ce à quoi on s'expose sur ces réseaux et on commence à comprendre un peu ce qu'on encourt en confiance à donner à ces réseaux. Il n'en reste pas moins que c'est extrêmement addictif et que tous les indicateurs montrent qu'on continue à le faire. Le seul endroit au monde où ça baisse significativement, c'est aux États-Unis, de façon assez intéressante. Donc le marché le plus mature de tous, de Facebook.
Et selon un sondage NBC Wall Street Journal, 60% des Américains affirment aujourd'hui ne pas avoir confiance en Facebook pour protéger leurs données.
C'est oui, oui, oui. Il y a une maturité à l'égard de ces sujets qui est importante. Maintenant, si vous voulez, vous êtes capable de fragmenter les services de telle façon à ce que vous n'ayez pas l'impression d'être toujours sous la même ombrelle. C'est la façon dont est structuré le Libra. Il y a beaucoup de partenariats très très, on va dire, qualitatifs qui ont été créés avec des acteurs comme Visa, des très grands acteurs financiers américains en particulier.
Uber aussi.
Uber, voilà. Et qui visent à faire que, en gros, vous pouvez pas éviter le dispositif. Il est tellement présent, l'expérience utilisateur est tellement qualitative que vous allez finalement vous y adonner. Et je pense que c'est d'ailleurs l'un des travers de ce que l'on pourrait reprocher à ces acteurs. C'est que, en fait, ils sont dans des positions où ils se rendent absolument incontournables et de facto, ils vont empêcher d'autres innovateurs d'émerger. C'est-à-dire que on voit très bien aux États-Unis, vous avez aujourd'hui 2 fois moins de création de start-up qu'il y a 15 ans. On le dit pas assez. Qu'est-ce qui veut ça alors qu'il n'y a jamais eu autant d'argent sur les marchés? Mais en fait, c'est que vous avez, excusez-moi pour l'anglicisme, des gatekeepers, des gens qui contrôlent les portes d'entrée, qui sont ces grandes plateformes, donc Google, Amazon, Facebook, Apple, et qui font que vous êtes une start-up, vous êtes obligé de faire un deal avec eux. Sinon, vous n'existez pas. Et ce deal vous rend dépendant d'eux, font qu'ils expurgent une partie de votre valeur. Et on est rentré aujourd'hui dans un vrai débat sur est-ce que ces acteurs, il faut les aider à grandir parce que finalement, ils font partie de l'impérialisme américain, ou est-ce qu'ils sont même gênants pour l'économie américaine elle-même?
Jean-Hervé Lorenzi.
Alors, c'est un Gilles a tout à fait raison de lancer cette discussion. En fait, il y a quand même une évolution dans ces GAFA représentent, on en parle beaucoup, mais représentent en réalité une partie importante de nos consommations, mais assez peu en matière de la partie du PIB qu'ils représentent. Et l'économie américaine est aujourd'hui l'objet d'une discussion très forte. Elle est en réalité très cartélisée. Contrairement à ce qu'on peut imaginer, elle se retrouve dans une situation bien au-delà des histoires de GAFA, dans une situation qui est en réalité une perte de compétitivité liée au fait que secteur par secteur, ce sont des grandes entreprises qui ont de fait des monopoles, des duopoles, des oligopoles, enfin tout, des choses très très restreintes, vraisemblablement beaucoup plus d'ailleurs qu'en Europe. Et ceci explique quelque part le fait que, quoi qu'il arrive, on rentre dans une espèce de d'une évolution du capitalisme dont les GAFA sont une expression qui par ailleurs sociologiquement est très importante, mais qui est en réalité assez proche de ce qui se passe dans l'ensemble de l'économie américaine. Il y a un livre qui va sortir d'un garçon qui s'appelle Thomas Philippon, qui est un économiste français absolument top, et qui vient d'écrire ce livre expliquant que d'une certaine manière, l'économie européenne est beaucoup moins cartélisée, en réalité donc quelque part plus productive. Donc ça nous entraîne sur, en réalité, la manière dont l'économie et le capitalisme aujourd'hui va réagir par rapport à cela. Est-ce qu'on va accepter ce dispositif? Et ma conviction, c'est que on va d'abord taper un moment sur les GAFA parce que c'est les plus fatigants de tous. Ils sont un peu fatigants quelque part. Je veux dire, on entend parler du matin jusqu'au soir, c'est quand même finalement un peu exaspérant, mais ils sont révélateurs d'un univers qui n'est pas que le leur, partout, il y a des entreprises, le système bancaire est en train de se concentrer, le système d'assurance est en train de se concentrer, le système de partout, de distribution, de retail, tout est en train de se concentrer. Et ce qui, d'ailleurs, est une des raisons pour lesquelles les gains de productivité dans le monde sont en train de faiblir et l'inflation est assez faible.
Et vous parliez tout à l'heure, Gilles Babinet, des start-up. On reproche aussi à Facebook, le groupe fait l'objet d'une enquête actuellement de la FTC, la Commission fédérale du commerce. C'est l'équivalent de la Direction générale de la concurrence en France, on peut dire ça.
C'est plus que ça, mais entre autres, ils ont effectivement cette mission. Et il lance une enquête, ce qui n'est pas rien. C'est-à-dire, on se dit
donc, une enquête sur les pratiques de Facebook qui se dépêche d'absorber cyniquement des concurrents potentiels.
Oui. La FTC, c'est une autorité extrêmement puissante qui a une autonomie quasi totale par rapport au pouvoir exécutif et qui lance cette enquête. On leur a beaucoup reproché de ne pas l'avoir lancée plus tôt. Et c'est une enquête qui est omnidirectionnelle, c'est-à-dire que ils étudient à peu près tous les comportements de Facebook et c'est un régulateur justement auquel on considère qu'il est beaucoup moins actif qu'il n'était avant la révolution conservatrice, avant l'avènement de l'ère Reagan, qui correspond à l'économie de rente que décrit Jean Hervé, qui s'est probablement cristallisé depuis cette époque. Et on est très attentif à ce qui pourrait sortir de l'avis qu'ils vont rendre d'ici quelques mois, qui peut aller d'une nouvelle amende. Ils en ont déjà mis une à Facebook, à réellement des mesures correctives extrêmement fortes. Et d'ailleurs, ils s'appuient à cet égard sur les processus de régulation qui ont été mis en place par l'Europe, par Margrethe Vestager.
Fin mai, l'Assemblée générale des actionnaires de Facebook a été assez houleuse en Californie. Il y a eu 4 résolutions défendues. Elles proposaient de réduire la mainmise de Zuckerberg sur le groupe, d'instaurer des contre-pouvoirs. Toutes les 4 ont été rejetées. Est-ce que Facebook fonctionne aujourd'hui comme une dictature ?
Oui, c'est très impressionnant. Si vous voulez, Mark Zuckerberg est extrêmement jeune. Et c'est assez étonnant de voir la qualité, entre guillemets, de la gouvernance qu'il a mis en place, qui lui permet de, on va dire, repousser toute tentative de renversement, et même toute velléité des opinions qui seraient potentiellement différentes du sien. Il y a 2 choses qui sont très crispantes actuellement. Il y a la Libra, qui est considérée comme une grosse erreur de communication par beaucoup d'acteurs autour et à l'intérieur de Facebook, qui a abouti à un certain nombre de démissions. Mais il y a un autre mouvement dont on parle moins, c'est le fait d'unifier les messageries d'Instagram, de WhatsApp et de Messenger, qui donnerait une puissance en matière de data à Facebook qui serait absolument incomparable. Et presque tout le monde autour de Mark Zuckerberg l'a mis en garde sur le fait que c'est un acte de concentration qui serait contesté probablement par les régulateurs. Et les régulateurs ont eux-mêmes, dans certains pays, dit qu'ils n'apprécieraient pas que ce soit fait. Et lui a dit, mais c'est pas grave, on y va. On continue, on y va, on fait ce mouvement. Voilà, donc...
Ça veut dire qu'il n'écoute personne.
Il n'écoute pas grand monde. Il est brillant, extrêmement intelligent. Mais je pense que c'est un peu, je dirais, une évocation de Café du Commerce que je vais faire là. Mais il a son petit côté Asperger qui lui joue des tours.
Et Peter Thiel, dont vous parliez tout à l'heure, est-ce que lui a l'oreille de Mark Zuckerberg ?
Ah oui, si vous voulez, moi je suis pas au conseil d'administration de la société, mais j'ai le souvenir d'avoir lu des ouvrages qui racontent leurs premiers échanges quand ils se sont rencontrés. Peter Thiel, le premier actionnaire, il a fait vraiment le premier investissement dans Facebook. Il a mis $500,000 à l'époque, et c'est la majorité de sa fortune vient d'ailleurs de là aujourd'hui. Et donc Mark Zuckerberg a été extrêmement impressionné par l'intelligence de ce garçon que personne ne contestera. Et je pense que lorsque il y a 2 ans il a pris fait et cause pour Trump en disant qu'il allait militer pour Trump, je parle de Peter Thiel, tout le monde dans le conseil d'administration de Facebook a demandé à Mark Zuckerberg qu'il parte. On ne peut pas avoir un type qui a cette opinion dans ce conseil d'administration. Et il a été protégé par Mark Zuckerberg.
On va se quitter le temps d'un nouveau journal sur RFI. On se retrouve dans 10 minutes avec Gilles Babinet et Jean-Hervé Lorenzi pour continuer à débattre des ambitions de Mark Zuckerberg, le patron de Facebook.
Géopolitique.
Chantal Leroux.
Bienvenue si vous nous rejoignez pour la seconde partie de Géopolitique. Mark Zuckerberg, qui s'apprête à lancer l'an prochain une nouvelle monnaie virtuelle, la Libra, veut-il devenir le maître du monde ? On continue d'en débattre avec Gilles Babinet, entrepreneur, vice-président du Conseil numérique, et Jean-Hervé Lorenzi, président du Cercle des économistes. Le 9 mai dernier, dans le New York Times, une tribune a fait l'effet d'un pavé dans la mare. Chris Hughes, le cofondateur de Facebook, y appelait Mark Zuckerberg à démanteler le réseau social, devenu selon lui trop gros et trop puissant. Est-ce que vous êtes d'accord l'un et l'autre avec Chris Hughes ? Jean-Hervé Lorenzi ?
Oui, enfin bon, c'est toujours passionnant de voir les gens revenir sur leur propre histoire personnelle. C'est ok, la part au fond d'un homme qui a fait une énorme fortune et qui après, au fond, s'aperçoit que tout n'est pas parfait. C'est un homme intéressant. Mais il a raison, et en plus c'est ce qui va se passer. Alors ça peut prendre 10 ans, mais je ne crois pas un instant que l'évolution, d'ailleurs que Gilles a évoqué, les deux, au fond, décisions de Zuckerberg qui ne trouvent aucune limite, mais ça c'est la caractéristique même d'un homme qui a ce souci de dominer. Vous avez parlé de domination du monde, et il a le sentiment, quelque part, que il est non seulement Asperger, mais Asperger, c'est normalement, on est, au fond, on a peur des autres. C'est ça la caractéristique dans cette maladie. Et au fond, est-ce qu'il a vraiment peur ? Oui, peut-être, il a peur. Enfin, quelque part, d'ailleurs, je m'en contrefiche.
Et ce qui est amusant, c'est qu'il avoue lui-même être fasciné par l'empereur romain Auguste.
Oui, enfin, il est complètement... des gens, il faut quand même sortir un instant du technique, de la description, de la logique. Vous êtes logique, Gilles est logique, je suis logique, mais pas lui. Lui, il est un homme qui n'a pas les mêmes références ni la même manière de penser sujet. Alors, c'est très compliqué parce que pendant des années, on rentre dans une logique, dans une manière que nous avons, nous, de poser les problèmes en essayant de rendre tout ça rationnel. Et à un moment, tout ça n'a rien de rationnel et il faut mettre un arrêt à cette évolution. Heureusement, je n'imagine pas que les pouvoirs politiques ne puissent pas à un moment sentir que c'est son propre pouvoir qui est en jeu et donc réagir. Donc oui, évidemment que non seulement il faut le faire, les démanteler, c'est pas du tout la solution définitive des sujets, parce que on peut en réapparaître le lendemain matin, un équivalent, enfin il faudra un petit peu de temps. Et deuxième aspect, peut-être une régulation suffisamment brutale, mais lui, de toute façon, il faut le démanteler, ça c'est clair.
Gilles Babinet, vous êtes d'accord ? Il faut démanteler Facebook ?
Oui, je me suis fait beaucoup critiquer parce que je pense que j'étais, avant même Chris Hughes, j'ai appelé au démantèlement de Facebook en France, et j'ai eu les affaires publiques de Facebook qui m'ont dit que c'était pas très réaliste, etc. Et 2 semaines plus tard, il a fait cette tribune, très argumenté, puisqu'il a été l'un des cofondateurs de Facebook, il a travaillé avec Mark Zuckerberg. Dans cette tribune, il rappelait que le projet initial, c'était de faire une association, de faire quelque chose qui soit un non-profit, et donc qui a été dévoyé petit à petit. Et quand Sheryl Sandberg, la directrice générale adjointe de Facebook, est arrivée, il y a eu vraiment une course de plus en plus accentuée au profit, au résultat, et qui est aujourd'hui, pour ainsi dire, inarrêtable. Et je trouve intéressant de voir que, finalement, une bande de petits gars qui avaient une vision assez idéaliste et humaniste de leur projet sont devenus, entre guillemets, complètement omnibulés par la réussite économique de leur système. Mais Chris Hughes, il dit 2 choses. Il dit, d'une part, c'est dangereux, et d'autre part, la gouvernance de Facebook est complètement centrée sur Mark Zuckerberg. Et il pense que c'est pas sain. Et je crois que c'est ce que l'on dit d'ailleurs. C'est que il faut à minima trouver pour l'ensemble de ces plateformes des systèmes de régulation qui permettent d'éviter que systématiquement, dès qu'elles ont de la data, elles essayent d'en abuser parce que c'est, je crois, le cas de à peu près tout ce qu'on pourrait appeler les méta-plateformes.
Pardon, juste, Gilles, là on rentre dans nos rationalités à nous. Mais la rationalité économique est beaucoup plus violente que ça. On pourrait prendre d'autres domaines. Je veux dire, la banque, c'est pas bon que les banques soient trop puissantes. Je veux dire, mais en général, c'est pas bon que un acteur, même une association, devienne, j'allais dire, une sorte de pouvoir qui a tentation. inévitable à vouloir se substituer aux autres pouvoirs. Ouais. Et donc, j'allais dire que ça dépasse... Ce que dit Hughes est à la fois intéressant, amusant, paradoxal. Vraisemblablement, il faudrait regarder de près quelles sont les relations entre deux hommes. Il doit y avoir un peu de jalousie, enfin tout ça.
Ils sont vus.
Moins, oui, moins intéressant. Mais quoi qu'il arrive, on ne peut pas imaginer des mondes dans lesquels une vingtaine, une trentaine...
Oui, oui, bien sûr.
Quand
oui, je suis d'accord.
Les États-Unis ont, dans leur histoire... parce que c'est eux qui ont été les plus violents par rapport à j'allais dire, le pouvoir d'entreprise, créer le Clinton Act ou le Sherman Act, c'était l'idée assez simple.
Donc c'est des lois antitrust.
Anti-pouvoir, je veux dire, il faut bien comprendre que le mot trust est un mot qui est l'expression juste de la prise de pouvoir par des individus qui, à un moment, en réalité, utilisent leur capacité, leur puissance économique pour prendre le pouvoir sur le politique, parce que derrière, n'imaginez pas qu'il n'y a pas d'intervention sur le politique, il n'y a pas d'intervention sur le mode de vie des gens, et c'est venu, c'est pour ça que c'est très intéressant, dans cette fin du 19e siècle, au fond, du fond du peuple américain, c'était plutôt les petits paysans, etc., qui se sont bagarrés contre les trusts. La bagarre de Standard Oil est une bagarre incroyable. Et le petit juge Green qui casse AT&T, alors qu'AT&T était une très belle entreprise, mais dont on jugeait qu'elle prenait trop de place dans nos vies.
Oui.
Ça dépasse l'aspect purement économique. Ça, c'est en réalité nos vies. C'est-à-dire que ce sont des gens qui décident pour nos manières de penser, nos manières d'agir, nos manières de nous comporter, et toute personne qui souhaite conserver dans l'existence un peu de libre arbitre s'élève à un moment déterminé sur le fait qu'un pouvoir, d'ailleurs, même chose pour une démocratie, quand les gens à Hong Kong se mettent à réagir, il n'y a pas Zuckerberg dans l'histoire, c'est juste qu'ils n'ont pas envie qu'on leur enlève leur libre arbitre. Donc c'est une question qui va beaucoup plus loin que ce garçon Zuckerberg qui, à un moment ou à un autre, se retrouvera, j'allais dire...
Mais cette question, est-ce qu'elle peut se retrouver au centre, enfin un enjeu de la campagne présidentielle américaine, puisque Elizabeth Warren et Bernie Sanders, tous deux candidats à l'investiture démocrate pour la présidentielle de 2020, donc, sont partis en croisade pour le démantèlement de Facebook.
C'est très intéressant, parce que Sanders, il a jamais pris l'argent des GAFA, parce qu'il est trop à gauche et on considère qu'il est un peu dingue. Mais Elizabeth Warren, c'est une sénatrice qui est très respectable. Et, entre guillemets, j'ai beaucoup de respect pour Sanders aussi, mais ce que je veux dire, c'est que elle a pris un parti pris radical du démantèlement des GAFA très tôt, et c'est un parti pris courageux parce que elle aurait pu prendre leur argent pour financer sa campagne. Et elle l'a pas fait, évidemment. Et donc, moi, je suis, d'une part, je la trouve brillantissime, je suis sa campagne de très près, et au-delà de ça, elle a compris qu'il faut un nouveau cadre d'antitrust, de régulation de tous ces acteurs. Parce que ce qu'il faut comprendre, et je pense que Jean-Hervé le comprend mieux encore que moi, c'est que on est passé dans une nouvelle phase. Il y a une déglobalisation des échanges marchands, mais il y a une globalisation de la data qui est plutôt extrêmement vigoureuse à cet égard. Et l'économie des plateformes, c'est une économie de rendement croissant. Plus vous êtes gros, plus vous gagnez de l'argent. Et plus vous en gagnez beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, il y a, pour ces acteurs, une certaine façon de se dire, finalement, un jour, il va y avoir un choc des titans entre nous et la Chine, et il faut, à ce moment-là, quand ça va arriver, être les plus gros possibles. Et c'est comme ça qu'ils intoxiquent les régulateurs, qu'ils intoxiquent l'exécutif américain, en leur disant, vous savez, nous, on est des instruments de la souveraineté américaine, il faut nous aider à grossir. C'est comme ça que ça se passe. Et ils le font avec une grande efficacité.
Et parce qu'ils ont des lobbyistes.
Mais ouais,
très efficace.
Ah ouais, moi je peux vous dire, moi j'ai connu très bien Schrag, qui était l'ancien patron des affaires publiques de Google. Je veux dire que ces gens-là, c'est les copains de tous les anciens présidents américains. Ils connaissent tout le monde. On les choisit pas vraiment au hasard. Et donc aujourd'hui, ils sont un peu pris au piège parce qu'ils se disent, je parle des régulateurs, ils disent mais en fait, on a transformé les États-Unis en une économie de rente. Tous les signaux sont là pour montrer ça. On le voit absolument partout. Dès qu'on mesure un truc, on voit c'est pas du tout l'économie vigoureuse qu'on nous vend. C'est un truc qui fonctionne parce que, en gros, c'est de l'immobilier, c'est du pouvoir financier, c'est plus de l'innovation. Mais le super la marque qu'on a, la perception qu'on a des États-Unis, c'est effectivement les startups. C'est pas vrai, c'est pas ça.
Alors comment va se positionner Donald Trump, parce que il adore Twitter, mais est-ce qu'il aime Facebook et est-ce qu'il est sensible aux arguments de Facebook
Il les déteste parce que c'est des démocrates, donc ça c'est absolument certain. Mais il est pris entre finalement son amour des États-Unis et l'instrument d'impérialisme que représentent ces entreprises et le fait que ce sont des démocrates. Et donc il a Peter Thiel qui lui souffle dans l'oreille sans cesse ce qu'il faut faire. Il faut savoir que Peter Thiel est en conflit d'intérêt total. C'est-à-dire, il lui dit pète la gueule de Google et de Amazon, mais Facebook, c'est super, quoi. Et donc, il est au bord de Facebook, c'est absolument honteux. Et pour l'instant, on assiste à ça. Un peu de façon médusée, je pense que les régulateurs américains sont extrêmement gênés de cette posture. Mais est-ce que c'est lui qui aura le dernier mot, sachant qu'il y a quand même des contre-pouvoirs, notamment des régulateurs et de la FTC, qui sont extrêmement importants? On le sait pas très bien.
Mais au final, qui peut décider d'un démantèlement de Facebook, Jean-Hervé Lorenzi? La justice américaine?
Oui, enfin, il y aura force. Vous savez, pardon, mais c'est des réactions de vieux, ça, mais l'histoire, c'est toujours répétitif, toujours la même chose. Il y a toujours quelque part une Warren, ou un petit juge Green, ou quelqu'un qui, à un moment, porte les intérêts. Moi, sur Trump, je sais pas ce qui va se passer, parce que il est vraisemblablement, j'allais dire, en opposition avec les démocrates, donc il a une position tactique. Il est sûrement convaincu de l'idée que c'est une partie du pouvoir, j'allais dire, des États-Unis, pouvoir technologique, et quelque part dans son délire, imaginons qu'il soit réélu, je ne suis pas convaincu qu'à un moment il ne se retourne pas, alors sur lequel... Je suis pas sûr d'ailleurs que le premier qui soit attaqué soit dans cette opération Zuckerberg. Je suis pas sûr que ce soit Facebook. Il se passera quelque chose qui, j'allais dire, est absolument aujourd'hui indisible, difficile de savoir ce qui va se passer. Qui aurait pu imaginer que la Commission européenne, emmenée par Vestager, soit aussi virulente? Qui aurait pu l'imaginer, vous voyez.
Mais démantèlement ne veut pas dire disparition non plus.
Oui, et c'est un très bon point. Et c'est un point, je pense, qu'il faut avoir à l'esprit. C'est-à-dire que comme ATT a été coupé en petits morceaux, ils ont continué à fonctionner, ces petits morceaux. Et on pourrait très bien avoir un système extrêmement efficace coupé en petits morceaux. Si vous voulez, d'une certaine manière, on pourrait très bien dire, ben, vous allez, d'un point de vue actionnarial, vous séparer de WhatsApp, d'Instagram. Et puis, ça va vous rapporter beaucoup d'argent, puisque... vous allez les céder comme des propriétés que vous allez mettre en bourse, donc ils y auraient un certain intérêt, et on va continuer à vous laisser interagir en termes de données entre ces différentes plateformes. On pourrait tout à fait faire ça. Il y a des travaux de chercheurs aux États-Unis qui évoquent cette notion-là, qui disent, en fait, l'instrument de régulation, c'est de permettre aux tiers d'accéder à la data, comme Facebook. C'est-à-dire, Facebook accédera à WhatsApp, comme... pourrait y accéder Google, par exemple, ou à une petite start-up. Donc, si vous voulez, c'est pas uniquement de dire on va leur faire mal, c'est aussi trouver un cadre de régulation qui fasse en sorte que les petits puissent se servir de la data sans être discriminés.
J'ai un désaccord. La logique voudrait qu'on fasse comme dans des tas de secteurs d'activité, on donne accès, mettons, à la Bundesbahn d'utiliser le réseau ferré français. Donc c'est ça la logique qui s'impose. Moi, je pense que c'est plus compliqué l'affaire des GAFA, c'est-à-dire qu'ils ont pris une telle importance qu'il y a un aspect de nature plus politique et qu'à un moment quelqu'un voudra leur peau.
Je suis d'accord aussi.
Et puis par ailleurs, il faudra trouver un dispositif de régulation comme Gilles vient de le décrire, qui est le dispositif le plus intelligent qu'on puisse imaginer, c'est que on donne accès à n'importe qui aux données, de qui puisse travailler dessus, exactement comme on le fait sur la plupart des services publics qui sont mis en concurrence. Et en réalité, à ce moment-là, il y a un régulateur qui fixe les conditions dans lesquelles on peut avoir accès. Mais je pense que il y a une dimension aujourd'hui politique du sujet. Il y a une deuxième question que vous n'avez pas encore évoquée, c'est, et permettez-moi de le dire, mais est-ce que on peut imaginer que ce continent qui est l'Europe, qui est quand même le continent la première, deuxième puissance économique du monde, où il y a plein de gens vachement malins, il y a plein d'argent, qu'est-ce qui va se passer? Je dis juste que ça me paraît très curieux qu'à un moment déterminé, ce groupe de pays riches n'arrive pas à re-rentrer dans la course. Je n'y crois pas. Je ne crois pas que ce soit possible.
Gilles Babinet.
Ah ouais, c'est un sujet qui me passionne, effectivement. Si vous voulez, vous essayez de comprendre qu'est-ce qui s'est passé aux États-Unis. et vous vous apercevez d'une chose qui est tout à fait étonnante, c'est que l'État fédéral, et notamment le pouvoir militaire, a été déterminant dans l'émergence de cet écosystème. J'irais même plus loin, je dirais qu'il n'y a aucun écosystème numérique dans le monde qui n'a pas émergé sans un appui extrêmement fort des autorités centrales et du pouvoir militaire. Alors vous prenez Israël, vous prenez la Chine, et vous avez les mêmes caractéristiques. Et on est aujourd'hui à une époque assez intéressante de l'Europe, où on commence à parler d'avoir, par exemple, une intégration au niveau de la cyberdéfense. Et on parle également de créer des agences de type DARPA européen, des agences d'innovation militaire. Et si vous voulez, en fait, ce qui fait que on arrive à faire ça, c'est qu'on a le capital humain. Et quand vous comparez, vous faites des comparaisons, moi je le dis tout le temps, entre la Chine, les États-Unis et l'Europe, sur ce qu'on appelle LMD, licence, master, doctorat, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup plus de capital humain de bonne qualité en Europe que partout ailleurs. Et donc, si vous voulez, on a la base, le matériau de base qui est le capital humain pour pouvoir faire ça. Après, il faut qu'il y ait une volonté politique et que finalement, on mette en œuvre des recettes qui sont relativement connues. Et il faut jamais dire jamais, en fait. C'est-à-dire que il y a une compréhension de ces mécanismes. Ça n'était pas le cas, moi, quand je commençais à travailler à la Commission il y a 6-8 ans. Aujourd'hui, je peux vous dire que tout le monde les comprend.
Parce qu'au début, vous disiez que, enfin, vous avez longtemps dit, ou déploré le manque de culture numérique.
Exactement.
Au plus haut niveau de l'État.
Mais je peux vous dire que il y a une compréhension politique. Après, rentrer dans le deep state, dans l'état profond, c'est plus compliqué. Mais on a fait un gros progrès à cet égard. Et je pense que, comme le dit très bien Victor Hugo, rien n'est plus fort qu'une idée dont l'heure est venue. C'est-à-dire que quand ça commence à se mettre à tourner, tout d'un coup, ça devient évident pour tout le monde et on le met en place.
C'est assez, d'abord, bravo hein, pour la formule de la retient. Et deuxièmement, on a un Macron. Il a raison sur ce thème. Je parle d'économie. Autant qu'aussi avec la France, uniquement, l'objectif, c'est une start-up nation, c'est une vision, de mon point de vue, un peu courte. Autant cette idée que on doit pouvoir à un moment mobiliser tout le capital humain dont tu parles, qui est absolument exceptionnel, et qu'on va sortir, j'ai vu les chiffres, je sais pas si c'est vrai, faux, mais on est capable de sortir 100 milliards d'euros s'il le faut pour sortir quelque chose. Et à ce moment-là, vous verrez que plus un peu de protectionnisme, plus un peu de ceci, il se passera quelque chose. Mais la formule de Victor Hugo est parfaite. Si tu peux la répéter.
Rien n'est plus fort qu'une idée dont l'heure est venue.
Je reviens à Mark Zuckerberg. Est-ce que son problème aussi, c'est que bon, il est très puissant, mais il n'est pas populaire aux États-Unis.
Alors, ça dépend. Il était très populaire auparavant sur les côtes, donc sur le vote démocrate, et il est détesté dans le monde rural, en fait, dans l'Amérique profonde, parce que l'arrogance, la technologie, tout ça n'a jamais été extrêmement apprécié. Et c'est vrai d'ailleurs de l'ensemble des GAFA. Et on se souvient pas de ça, mais vous savez, Mark Zuckerberg, tous les ans, il prend des résolutions. Il y en a une, ça a été de tuer tous les animaux qui fourniraient la viande qu'il mangerait. Donc il a fait ça pendant un an. Une autre année, ça a été d'apprendre le chinois. Et puis il y a 2 ans, il a pris une résolution, c'était d'aller visiter tous les États américains dans l'année. Et il y a beaucoup d'observateurs qui ont dit, il part en campagne pour la présidentielle américaine. Et ça a été orchestré de main de maître. À chaque fois, il y a eu des photos magnifiques. On le voit qui pêche des saumons avec vraiment les Américains locaux, etc. Mais ça s'est effondré avec Cambridge Analytica. C'est-à-dire que le scandale a été tellement immense, tout le monde s'est rendu compte que
c'est-à-dire pris dans la nasse. Cette fuite de données, 87 millions de données détournées par Cambridge Analytica.
Oui, c'est ça. Et puis tout le monde s'est rendu compte que voilà, il faisait n'importe quoi avec les données. Et puis il s'est mal défendu. Il a été arrogant dans sa défense. Et donc tout d'un coup, il y a beaucoup de gens qui ont commencé à dire, de toute façon, tous ces trucs, on devrait les mettre sous contrôle. Et je pense que c'est ces espoirs jamais explicités de se lancer en politique ont été raidement douchés.
Merci à tous les deux d'avoir été nos invités. Gilles Babinet, entrepreneur, vice-président du Conseil national du numérique et conseiller de l'Institut Montaigne pour les questions numériques. Vous avez publié « Transformation digitale, l'avènement des plateformes » aux éditions Le Passeur. Jean-Hervé Lorenzi, président du Cercle des économistes. Vous avez coécrit avec Michael Bérébi et Pierre Dokès « La nouvelle résistance face à la violence technologique » aux éditions Erol. Merci à Nathalie Laporte qui a réalisé cette émission et à Véronique Durand qui m'a aidé à la préparer. Samedi prochain, c'est Marie-France Chatin que vous retrouverez à ce micro. Bonne semaine à tous.